marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Culture.
Conquête. Commerce.
Alliance.
Pacte.
D'autres unions européennes.
L'Europe napoléonienne.
Je peux tout, n'est-ce pas ?
En effet, vous êtes le maître.
Bien. L'Autriche m'en mettra le Tyrol et Venise. Je veux le Tyrol pour sa position stratégique et Venise pour ses trésors. Et j'ai fait le fils de Joséphine vice-roi d'Italie. Venise sera donc à ce brave Eugène. Je ferai couronner mon frère Joseph roi de Naples. Louis et ma chère Hortense régneront sur la Hollande. Et je vais donner la Westphalie à Jérôme. L'Europe se trouvant alors tout entière irriguée par mon propre sang, il n'y aura plus de guerre. Je serai le maître de l'Europe. Et l'Angleterre n'aura plus qu'à pourrir dans sa tanière.
Vision fantasmée de ce qu'on appelle le Grand Empire. Mais d'abord, Bonaparte a voulu prolonger la portée de l'effort des révolutionnaires. Ce qu'on appelait la Grande Nation, tout en assurant mieux ses frontières, prétendait libérer les peuples de la Belgique et de la rive gauche du Rhin, qui passèrent sous administration directe de Paris. Une première fournée de départements surnuméraires date de cette période pionnière. Ensuite, Bonaparte, à partir de ses campagnes d'Italie, introduisit une nouvelle priorité à l'expansion, le Sud et ses ports. Enfin, il n'y a jamais de fin avec Napoléon, devenu empereur, il imagine son empire comme un toujours plus grand empire. Non seulement il a relevé l'héritage de la Révolution, mais il commence à réaliser les rêves inaboutis qui étaient ceux de la vieille monarchie française. En 1807, un accord, arraché au tsar de Russie, permet aux deux pays, provisoirement associés, de prendre le continent comme en étau. Au cercle des États satellites, plus ou moins bien tenus par la famille Bonaparte, s'ajoute celui des pays vassalisés. Quant au premier cercle, celui de l'administration directe, il s'enrichit encore de nouveaux départements ou intendances jusqu'à Hambourg ou l'actuelle Croatie. En 1810, la France compte 130 départements. Le zénith apparemment est atteint quand le mariage avec Marie-Louise fait entrer Napoléon dans les alliances familiales des vieilles dynasties du continent. Mais justement, l'Europe napoléonienne n'est que continentale. Albion reste invincible sur les mers. Surtout, l'empire napoléonien ne peut parvenir à un point d'équilibre. Sa course rapide devient une fuite en avant. On sait qu'en 1814, Napoléon laissera une France plus petite que 20 ans auparavant et réduite à un rôle de puissance seconde et pire, objet de méfiance et de détestation qui peuvent durer encore.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Philippe Rey, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Il faut un professeur de classe préparatoire pour être cursif et synthétique comme il va le falloir pendant cette émission. Vous avez publié un manuel, un ouvrage de synthèse formidable qui s'appelle « Histoire du Premier Empire, mais d'abord Histoire du Consulat ». C'est aux éditions Perrin. On entendait un son de la série filmée d'Yves Simoneau qui était censé se dérouler en 1805, donc peu après l'élévation de Napoléon au trône. Il y a ce cercle-là des pays satellites qu'il confie à tel ou tel membre de sa famille, qui mérite plus ou moins confiance.
Oui, alors en réalité, dans l'extrait qu'on a entendu, il y a une sorte de condensé de ce qui s'est passé en trois années, ou en deux ou trois années, puisqu'on est parti de 1805 en réalité, où effectivement Napoléon prend pour lui la couronne de roi d'Italie, et confie la charge de vice-roi à Eugène. Mais ensuite, on évoque dans l'extrait, je crois, le royaume de Westphalie, qui lui n'est fondé que après justement les accords avec le tsar qui sont évoqués dans le même extrait.
C'est une concaténation.
C'est une concaténation bien pratique, sans doute dictée par le format des fictions télévisuelles.
Ben nous, on va essayer quand même de restituer le rythme réel, année après année. Là, au moment de ce qu'on appelle le Grand Empire, parce que le mot est employé dès 1805-1806.
Oui, 1806.
Il y a de nouveaux départements. On va tenir le fil aussi de l'administration directe par les départements. Il y a de nouveaux départements que ceux que la Révolution française avait réussi à instaurer sur la rive gauche du Rhin ou en Belgique.
Lorsque Bonaparte prend le pouvoir avec Brumaire et le consulat, il hérite d'un peu moins de 100 départements, 98. Et puis on a dépassé la centaine lorsqu'il est couronné empereur, on atteindra, vous l'avez dit tout à l'heure, 130 et même 134 si on compte les départements espagnols, catalans plus exactement en 1812. Et donc effectivement il y a une progression, mais la départementalisation elle s'accompagne, elle n'est pas le même phénomène que la vassalisation des royaumes dont vous avez parlé.
Alors, les membres de la famille et leur personnel, on les identifie plus ou moins bien, à partir d'une littérature souvent légendaire. Les notables qui vont prendre en charge les nouveaux départements, Marengo, département d'Italie, 1802 je crois, chef-lieu de Turin, c'est qui ces notables qui arrivent comme ça, ou ce sont des militaires aussi?
Alors en fait, bien sûr il y a une administration militaire, mais les départements que Napoléon crée en dehors de la France, des frontières naturelles, pour parler comme un révolutionnaire, ce sont des départements dont l'administration est confiée à des préfets. Et donc on a une administration civile en réalité qui se met en place dans ces départements, et il se trouve qu'en effet, que ce soit d'ailleurs, là pour le coup l'évolution est semblable, que ce soit pour les royaumes vassaux ou pour la France départementalisée du Grand Empire, la Grande France, les administrations sont de plus en plus francisées. On voit par exemple que dans l'entourage de Gênes, vice-roi d'Italie, progressivement, les Français chassent les Italiens. Et on voit bien que, avant même que l'Italie devienne un royaume, enfin le nord de l'Italie, devienne un royaume d'Italie, et lorsque donc cette région était la République d'Italie, le vice-président Mezzideril, donc un Italien, commande des ministres, dont certains prennent leurs ordres directement à Paris, notamment le ministre des Affaires étrangères.
Et l'administration, elle est régie dans les pays vassalisés ou dans les départements d'administration directe par le code civil?
L'ambition napoléonienne, c'est évidemment de diffuser le code civil et de diffuser les normes françaises dans tous les domaines en réalité. Après, on s'aperçoit quand même que Napoléon, comme dans tout ce qu'il a fait, est un pragmatique profondément. Et donc il va enjoindre ses représentants sur place de diffuser le code civil, mais il va de temps en temps opérer des atténuations, des oublis commodes qui lui permettent de ne pas trop vexer les sensibilités locales, nationales, etc. Et par exemple, quand Joseph, un de ses frères, prend le royaume d'Espagne, prend en charge le royaume d'Espagne dans un cas qu'on rappellera peut-être tout à l'heure, en 1808.
Dans un cas un peu difficile.
Un peu difficile. Bon, il y a un maintien des ordres, on ne dément pas l'ancien régime, on maintient le catholicisme comme région d'État.
Effondrement de la Prusse en 1806. On peut dire que seule la Russie reste debout. Enfin, la Russie qui a failli l'emporter à la bataille d'Eylau, mais qui est défaite à la bataille de Friedland. Alors, est-ce que sur un pied d'égalité, l'empereur de Russie et l'empereur de France vont pouvoir se parler? Vous décrivez dans votre livre l'histoire du premier empire, la rencontre qui a eu tout pour frapper les imaginaires de 1807. 1807, c'est aussi votre adresse mail.
Oui, mais c'est aussi la bataille d'Eylau, vous savez.
Ah oui, bah d'accord. Vous décrivez, après la bataille d'Eylau, après la bataille de Friedland, l'entrevue de Tilsit.
Le 25 juin 1807, à 1h de l'après-midi, l'empereur des Français, accompagné du grand-duc de Berg, du prince de Neuchâtel, du maréchal Bessières, du grand maréchal du palais Duroc et du grand écuyer Caulaincourt, s'est embarqué sur les bords du Niémen dans un bateau préparé à cet effet. Il s'est rendu au milieu du fleuve où le général Lariboisière avait fait placer un large radeau et élevé un pavillon.
Vous avez vu, Caulaincourt, le tsar de toute la Russie dans toute sa splendeur. Éblouissant.
Lorsqu'on est vaincu, sire, on a le choix entre deux solutions, soit on se couvre soi-même de sang ou de fanfreluches. Il a choisi les fanfreluches.
Vous devez savoir, sire, que je suis comme vous. Je déteste les Anglais à un point que je ne saurais dire.
Dans ce cas, sire, la paix est faite.
C'est après une série de Maurice Chateau, la série d'Yves Simoneau, toujours et encore. On peut dire que les deux souverains s'entendent pour prendre en étau l'Europe, en tournant le dos à la perfide Albion. C'est vous qui utilisez souvent le mot Albion.
Oui, j'utilise souvent le mot Albion. J'ai moins souvent l'adjectif perfide. Mais il doit être en sous-texte. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée de prise en étau de l'Europe, en réalité. Je crois vraiment que Tilsit, c'est une rencontre durant laquelle Napoléon fait valoir un rapport de force qui est à son avantage. Certains historiens utilisent la notion de partage du monde qui aurait lieu à ce moment-là. Non, très clairement, la France impose la loi du vainqueur à la Russie. On fait admettre des choses absolument incroyables à Alexandre. On crée un grand-duché de Varsovie, pardon, qui était pour lui la résurrection de la Pologne. Donc, qui normalement est absolument inacceptable.
Et il est vassalisé par la France aussi.
Oui, ce duché, oui, tout à fait, est confié au roi de Saxe, nouvel allié de Napoléon. On l'oblige à contribuer au blocus continental.
Dont on parlera tout à l'heure, qui doit être en sous-texte dans toute notre émission.
C'est ça. Et en fait, effectivement, Napoléon parvient, en lui tordant le bras, à se faire d'Alexandre Ier un allié dans sa logique de guerre d'anéantissement contre l'Angleterre. Et pour appliquer le blocus continental qui a été mis en place depuis novembre 1806. Mais Alexandre plie parce qu'il n'a pas d'autre choix. Après la bataille d'Eylau, terrible, du 14 février 1807. Un massacre effroyable. Les Français ont pris Danzig, ont pris Königsberg. Ils sont sur Niemen. Et Alexandre doit traiter. Donc c'est clairement un rapport de force qui est acté à ce moment-là et imposé par Napoléon.
L'Autriche va faire profil bas pendant toutes les années qui suivent. Alexandre, le tsar de Russie, refuse sa sœur à Napoléon. Et l'Autriche met dans le lit de Napoléon, accepte de mettre dans le lit de Napoléon la jeune archiduchesse Marie-Louise. Ça fait entrer Napoléon dans le système des alliances traditionnelles. Mais nous avons un fil. Les départements en administration directe. Alors vous avez dit, on est arrivé jusqu'au chiffre de 130 en 1810 et ça va même peut-être encore augmenter ensuite.
Bouches-du-Rhône.
Marseille.
Corse.
Ajaccio.
Basse-Pyrénées.
Pau.
Haute-Pyrénées.
Tarbes.
Pyrénées-Orientales.
Perpignan.
Rome. Trasimène.
Spolète.
Zuiderzee.
Amsterdam.
Bouche de la Meuse.
La Haye.
Bouche de l'Isel.
Zwol.
Bouche de l'Escaut.
Middelbourg.
Bouche du Rhin.
Bois-le-Duc.
Bouche de l'Elbe.
Hambourg.
Lys.
Bruges.
Escaut.
Gand.
Denette.
Anvers.
Bouche du Vézère.
Brême.
Mais c'est invraisemblable, jusqu'à la Hanse, dont nous parlions lundi.
Jusqu'à la Hanse, et c'est décisif. Parce que effectivement, dans le cas de Hambourg, par exemple, et des Bouches de l'Elbe, c'est décisif. Parce que, en réalité, Napoléon, justement, avance dans sa logique de blocus continental. Et il lui faut absolument fermer le continent aux Anglais, au commerce anglais en particulier. Et donc, il lui faut tenir les ports. De ce point de vue-là, la logique que suit Napoléon n'est pas totalement étrangère à ce que les révolutionnaires ont fait eux-mêmes. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il est fait allusion aux Denettes, dont la capitale est Anvers. Et Anvers, c'est le port que Napoléon considérait comme un pistolet braqué sur la tempe des Britanniques, c'est-à-dire le port à partir duquel on peut boycotter, si j'ose dire, et affronter, dans une guerre économique inexpiable, l'Angleterre.
Mais comment imaginer s'entendre avec les bourgeoisies constituées depuis tant de siècles et de générations de Hambourg ou de Brême?
C'est là qu'effectivement le débat existe. Alors en fait, Napoléon là aussi procède très pragmatiquement. Par exemple, si on prend le cas de la Hollande, il en fait d'abord un royaume qu'il confie à son frère Louis, avant, en 1810, d'annexer purement et simplement la Hollande, qui est départementalisée.
Parce que le brave Louis, il a des capacités...
Il a des capacités que difficiles à mesurer. Que l'histoire retient comme limitées. En tout cas, effectivement, la Hollande à ce moment-là est départementalisée en 7 départements, et ça permet à Napoléon d'administrer beaucoup plus verticalement, beaucoup plus directement, des territoires qui lui semblent totalement indispensables de maîtriser parfaitement.
Comment administrer les Provinces-Unies? Je reviens toujours à la même question, qui ont des générations et des siècles d'histoire propre.
Alors je crois que le pari fondamentalement, c'est quand même que la France, depuis la Révolution, pense pouvoir apporter des éléments de modernité, des éléments d'administration efficace à des territoires et donc à des bourgeoisies ou à des notables qui y voient un intérêt. Et je pense que, d'une certaine manière, la contrainte française qui est indéniable et qui est au fond inacceptable, qui pèse sur les pays européens à ce moment-là, est une contrainte qui est d'autant plus susceptible d'être acceptée qu'elle correspond à l'avènement d'une prospérité, d'une modernité dans les territoires en question.
J'ai du mal à penser que les provinces unies ne sont pas modernes.
Mais... Non, mais qu'elles le soient, je suis bien d'accord. Mais je parlais d'une modernité en termes d'administration de ces territoires. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, le modèle français qui s'étend, c'est un modèle qui peut inclure, alors trop souvent à la marge, mais peut inclure une partie des notables locaux et des bourgeoisies locales.
Mais vous conviendrez quand même que la carte est faite de bouts et de morceaux. Parce que il y a des départements jusqu'en Autriche actuelle, la Carinthie... Oui. Jusqu'en Croatie actuelle, départements illyriens dont on ne sait pas très bien si c'est des départements ou des intendances.
Oui.
Là, le mot est clair, intendance.
Oui, le mot est clair, il est connoté. Mais c'est tout à fait vrai, c'est un patchwork, et je crois que c'est un patchwork d'autant plus intenable que les logiques qui président à ce patchwork sont finalement contradictoires. Puisqu'en fait, Napoléon a à la fois un souci d'administration directe où c'est l'influence française qui se répand et qui n'admet pas de contestation, à une époque où justement la domination française elle-même d'ailleurs suscite l'émergence des nationalités et suscite des résistances qui vont se développer, d'autant plus que la crise à partir de 1810-1811, quand on voit que le blocus continental ne marche pas tout à fait, se profile.
La crise qui peut être une crise frumentaire. Allez, on va faire semblant de croire que 1811, c'est l'apogée. Il y a eu le mariage avec Marie-Louise, en mars, la naissance du roi de Rome. Maintenant, le 15 août, c'est l'Assomption de la Vierge, mais l'Assomption de la Vierge a donné naissance à la Saint-Napoléon. Naissance contrainte et forcée. Le pape, d'ailleurs, a été enlevé, et il est dans un chef-lieu de département, à Savonne. C'est pas lui qui entonne le Te Deum du 15 août 1811, auquel, dans un uniforme un peu ridicule, qui ressemble pas à celui traditionnel de colonel de la garde qu'il utilise, apparaît Napoléon. Te Deum, Paisello, le sueur, comme en 1804.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'Europe napoléonienne. Je signale l'apparition demain chez Perrin d'un livre de Charles-Éloi Vial consacré au 15 août 1811 qui observe la manière dont les Te Deum ont été chantés et les fêtes données ou bien boudées en France dans les 130 départements, dans les pays vassalisés ou dans les pays soi-disant amis. Mais notre invité est un autre auteur de Perrin, c'est Jean-Philippe Rey, qui a publié notamment une histoire du consulat et du Premier Empire. Vous parlez beaucoup du blocus continental. Ça date de quand, le blocus continental ?
Alors en fait, ça date du 21, le décret qui constitue le blocus date du 21 novembre 1806. Et c'est donc une date qui est postérieure à la grande victoire de Iéna, Iéna Auerstadt, j'aime y associer le maréchal Davout.
On va retrouver gouverneur des départements hanséatiques.
Exactement, un homme du Nord, et par vocation. Et donc ce blocus continental, en fait, il prend acte de l'effacement du paysage de la Prusse. Jusqu'à présent, Napoléon avait plutôt joué la carte de la Prusse pour effacer l'Autriche, et puis en blackboulant la Prusse à Iéna, Iéna, eh bien, il se trouve avec un horizon totalement dégagé, et effectivement, il ne reste plus...
Il ne reste que l'Angleterre.
Que l'Angleterre.
C'est pas quantité négligeable.
C'est pas quantité négligeable. C'est pas
il y a
quantité
les bateaux.
Négligeable. Et voilà. Et le problème, c'est qu'il y a eu Trafalgar en même temps qu'Austerlitz, et par conséquent, il faut s'y prendre autrement pour lutter contre l'Angleterre. D'où cette perspective d'interdire tout commerce et toute utilisation de commerçants ou de bateaux qui seraient passés par l'Angleterre.
La tribune de l'histoire de France Inter, naguère sur le blocus continental.
Rien, monsieur de la Forêt, n'était simple dans l'Europe de ce temps-là.
Si, une chose, une seule. L'hostilité permanente de l'Angleterre. Pour la vaincre, dès lors qu'un débarquement s'avérait impossible et que nous avions perdu la presque totalité de nos escadres, il n'existait qu'un moyen, ruiner son commerce par le blocus continental et, sur la pression de ses négociants ruinés et du peuple affamé, l'amener à composition. Seulement, le blocus ne pouvait présenter ses effets que dans la mesure où toutes les puissances consentaient à l'appliquer.
Seulement, oui. Qui applique et qui n'applique pas? Il y a 30 000 douaniers en 1810.
Oui, 40 directions des douanes également. Oui, c'est une opération absolument démesurée en réalité. Et là, on mesure... A posteriori, la vanité de ce type de projet-là, surtout qu'il amène Napoléon à vouloir contrôler tous les points d'entrée des marchandises britanniques, et ça pousse par exemple, après le traité de Tilsit, Junot à mener une intervention militaire au Portugal, avec d'ailleurs l'accord tacite du roi d'Espagne d'alors, et donc effectivement Napoléon va devoir disperser ses forces aux quatre coins de l'Europe, de manière à le plus possible veiller à ce que ce blocus soit respecté, mais c'est une gageure, parce qu'en réalité, évidemment, un négociant s'est fait pour négocier, des frontières sont faites pour être traversées, et des marchandises sont faites pour être écoulées. Donc il va y avoir tout un réseau de contrebande, et plus l'Empire poussera ou du moins l'Europe napoléonienne repoussera ses frontières, plus les chemins de contrebande et les...
C'est un corset pour contraindre la respiration naturelle.
C'est un corset pour et qui a restreint la respiration naturelle de l'Europe, presque plus que de l'Angleterre, puisqu'on sait qu'à partir de 1809, l'Angleterre retrouve la croissance.
Vous parlez de la péninsule ibérique, de l'intervention, tout en douceur, de Junot, duc d'Abrantès, au Portugal, avec l'accord du roi de l'époque. Mais Napoléon va au fond reprendre la vieille tradition des Bourbons et décider, de même que les Bourbons avaient remplacé les Habsbourg sur le trône de Madrid, décider de remplacer un Bourbon par un Bonaparte, Joseph Bonaparte. Sauf que il jette sur l'Espagne un filet avec beaucoup de trous. On sait même pas qui commande l'armée.
Avec énormément de trous, évidemment. Alors, on sait qui commande l'armée au début. C'est Murat. Et là, ça fonctionne. Mais effectivement, à partir du moment où Joseph est désigné comme roi d'Espagne, à la grande déception de Murat d'ailleurs, qui lui file à Naples, l'Espagne est à proprement parler ingouvernable. Et d'ailleurs, c'est une suite de défaites qui attendent les Français jusqu'à la catastrophe de Baylen, la défaite du général Dupont. 3 jours après seulement que Joseph ait fait son entrée triomphale dans Madrid, tout un symbole, et c'est surtout une guerre nouvelle, une guerre d'un nouveau type, hein, puisque c'est une guérilla locale, provinciale, profondément ancrée dans la population espagnole qui attend les Français, et là c'est tout autre chose.
Une guerre, on va entendre un témoignage venant de sa part dans un instant, que le peintre Goya a décrite.
Napoléon avait dit aux Espagnols
« Votre nation périssait !» J'ai vu vos maux, je vais y porter remède. Je veux que vos derniers neveux conservent mon souvenir et disent « Il est le régénérateur de notre patrie ». Je délivrai donc les Espagnols de leurs hideuses institutions. Je leur donnai une constitution libérale.
De son Excellence, Monsieur Don José de Palafox. Général commandant la région d'Aragon à Monsieur Don Francisco de Goya, premier peintre du roi.
Je vous demande de venir à Saragosse pour observer cette cité ravagée par l'effroyable siège auquel l'a soumise l'armée française, dans le but de fixer sur la toile la grandeur de nos citoyens et que leur prouesse soit immortalisée.
Tiens, Mathéo, aide-moi à attendre la toile.
T'es prêt, messieurs ?
Encore des bagages.
Bon voyage à Saragosse et bonne
chance. Aubergiste, dites-moi, est-ce qu'on risque de rencontrer les Français pendant le voyage?
Mais seigneur, la guerre est hélas partout.
Oh, Saint-Vierge.
Voilà une question.
Je crois qu'on ferait mieux de rentrer.
Quoi, que dit-elle?
Les Français.
Le terrible voyage que j'ai fait de Madrid à Saragosse. J'ai souvenance de visions d'épouvante. Liberté, égalité, fraternité. En voilà de belles paroles. Lorsque la mort et la famine deviennent notre quotidien, mes compatriotes luttent et meurent, alors que moi, je ne fais que peindre. Combat glorieux que le mien. Oh.
Sainte Vierge!
Qu'est-ce qui nous arrive?
Oh!
Ah, Vierge du Pilar, viens-nous en aide.
Vous voyez quelque chose?
Le village est en flammes. Que se passe-t-il?
Ils ont mis le feu à ce village où on va.
Comment?
Ils ont mis le feu, les Français!
La série Goya, José Ramón Narraz. Oui, l'ancien régime espagnol a peut-être de hideuses institutions, mais liberté, égalité, fraternité se prononcent cruellement. En Espagne.
Très cruellement. Effectivement, c'est une guerre absolument terrible, d'un genre nouveau, mais dont on avait déjà vu les prémices en réalité ailleurs en Europe. C'est pas une absolue nouveauté. Il y a notamment des travaux qui ont bien montré combien des affrontements qui ont eu lieu, par exemple, en Calabre, au moment où Joseph, déjà, arrive sur le royaume de Naples, présentaient les mêmes caractéristiques. Donc d'une population réduite à rien et comment dire profondément humiliée et vexée dans son identité par la présence de troupes qui sont des troupes d'occupation.
Parce que la présence de Napoléon n'allait pas jusqu'à lui faire considérer dans toute leur importance les prémices de l'idée de nationalité.
Il en a quand même l'intuition. Il en a l'intuition parce qu'il en joue. Cyniquement d'ailleurs, il pousse les Irlandais contre les Britanniques en 1803 après la rupture de la paix d'Anvers. Il joue avec le nationalisme des Polonais lorsqu'il s'agit justement d'entrer dans Varsovie, où Murat entre en triomphateur dans Varsovie après la bataille d'Iéna. Donc il voit très bien ce qui se passe. C'est la France qui est après tout la grande nation et qui montre la voie justement de la souveraineté des nations. Mais cyniquement, en réalité, il joue de ce sentiment autant que ce sentiment peut lui servir à gouverner et à servir l'Europe.
François Furet, construite de bouts et de morceaux au fil des événements, cette Europe napoléonienne répond de moins en moins aux objectifs de son fondateur et de plus en plus aux espoirs de ses adversaires. Vous terminez par quelques méditations sur la défaite après la campagne de Russie désastreuse de 1814. La France réduite à l'état de puissance seconde. Et alors j'ai recommandé votre grand ouvrage de synthèse, Jean-Philippe Rey, mais vous en avez fait un aussi sur 1814.
Oui, sur 1814, mais seulement sur les combats un peu désespérés qui ont eu lieu pour la défense de l'Empire dans ma région d'origine, c'est-à-dire la région Rhône-Alpes, enfin du moins entre Rhône et Alpes.
Et à Lyon, vous avez animé un colloque, Napoléon Bonaparte face à l'histoire, avec votre compère Bruno Benoît, et c'est publié aux éditions du Poutan. On n'est pas très loin de Lyon, on est carrément dans le Beaujolais. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par Audrey Ripouille, préparée par Franck-Olivier Frédéric Martin et Ninka Negulesco, avec à la technique Mathias Alléon. Et chez vous, Daniel Fevet.
Bonjour Jean, on va s'intéresser à la façon dont la nature agit sur notre cerveau.
Dans un instant.